On se tutoie sur Nostalgie. Jean-Luc Reichmann.
Ta pub avant la pub.
Je trouve ça génialissime. J'ai eu la chance de te voir là, il n'y a pas si longtemps, à Bobino, où je trouve d'une fraîcheur exemplaire. On ne peut pas tout mettre dedans, mais sachez que là, au mois d'avril, tu seras à Louvain, tu pars en Belgique. T'aimes bien les Belges, hein?
Oui, je crois qu'ils me le rendent bien.
D'ailleurs. Ah, mais ils te le rendent bien. Tu seras à Louvain, tu seras à la Maison de la Culture en Darlonne. Tu es à Liège, en Belgique. Tu pars dans l'Est, à Nancy, à la Salle Poirel, au Grand Palais à Lille. Tu transperces les frontières avec Genève. Tu vas à Mency, tu vas à Charleroi. T'aimes beaucoup la Belgique, tu y es sans arrêt. À Mons également. Donc, au mois d'avril, je veux dire, on va pas te demander ce que tu fais puisque tu es sur les routes partout. Et c'est un enchantement, cette tournée. Moi, comme je te dis, voilà, je me suis déplacé. Je me déplace rarement, mais pour toi, je me déplace très, très, très souvent.
Mais c'est vrai que les gens ont besoin de savoir la tournée. Mmh. Mais nous, moi, je marche au spectacle.
T'es sûr ?
Et ce spectacle, il va durer 2 ans.
Ouais.
Et je promets pas que dans 6 mois, il sera exactement le même que celui que t'as vu.
Ouais, ouais, mais c'est la vie, l'amour, etc.
Ouais, absolument, la vie, l'amour, etc.
Ouais, donc c'est toi qui avais envie, comme un chat de côte-carte, de dire, tiens, j'en retourne une là, j'en retourne une là. Tu fais des jolis duos. Je vois que tu as quand même des pas chaloupés avec Sanda, t'as bossé comme une bête. C'est pendant le confinement, j'ai entendu que t'avais bossé comme une bête. le déhanché. Tu dansais pas trop dans le Big Bazar.
Il y avait des pas que je faisais en même temps que tout le monde.
Ouais, c'est ça.
Mais c'est pas ma qualité première, quoi.
Ouais, c'est ça. Mais t'as fait même des émissions de télé. J'ai vu, je me suis quand même renseigné sur toi. C'était quand même assez fantastique d'être animateur télé.
J'ai détesté ça.
Non, mais moi, je t'ai vu avec Enrico Macias, avec Claude François. J'ai regardé un peu tout. Mais c'était une bande de potes aussi à l'époque.
Oui, non, j'ai détesté être animateur télé, j'ai fait la première télé.
Oui, moi aussi j'ai horreur de ça, ouais. C'est pour ça que je fais de la radio en fait. Pardon, excuse-moi.
Tu fais ce que tu veux.
Ok, je suis hors sujet, d'accord, j'ai compris, d'accord. Mais t'as pas aimé cet exercice.
Ah non, j'ai fait la première, c'était le samedi après-midi, d'accord.
Oui.
Les Fugues à Fuguin, ça s'appelait.
Et ouais.
Bonjour.
Rime riche, Fugue à Fuguin.
Oui. Et j'ai fait la première et puis j'ai vu la direction. Les enfants, ça va pas faire. Je vais pas pouvoir. C'est pas mon truc.
Qu'est-ce qui t'a déplu?
C'est pas mon truc.
Ouais.
Il y a quelque chose qui n'est pas. J'aime prendre mon temps pour créer. C'est pas possible. Tu le sais bien. Mm-hmm. C'est pas possible la télé. Tu travailles semaine, hein, d'accord. Mm-hmm. Non, c'était pas mon rythme, même biologique.
Oui.
Et donc je leur dis non, on va arrêter parce que c'est pas bien. Et les mecs ils me disent oui, mais on a rien à mettre à la place. Est-ce que tu peux faire encore pendant? C'est allé jusqu'au mois de février. Au mois de février, j'ai plié les gaules et je suis parti aux États-Unis.
D'accord. Et alors là, ce virage aux États-Unis, c'était pour une inspiration? Tu disais que tu n'étais pas obligatoirement pour les États-Unis.
C'était pour retrouver, pour voir comment ils composaient là-bas.
Ouais.
Et je suis donc allé à Los Angeles, je m'y suis installé, j'y suis resté 3 mois et demi.
C'est en quelle année? C'est à peu près dans
81.
D'accord.
Oui, 81.
Ouais.
Je me demande si c'est pas 82 d'ailleurs.
D'accord, mais c'est pas très grave. C'était juste pour savoir, c'est dans les 80s. Donc ça veut dire que Claude François l'avait fait avant toi.
J'en ai rien à battre.
Non, mais d'accord, je sais bien. ne dis pas que t'as rien à battre de Claude François quand même. On est sur.
Ah, j'en ai rien à battre depuis le début. Alors, moi je l'ai vu une fois. Pour la légende.
Vas-y.
Je dis pas de mal.
Okay.
Je dis pas de mal. Je dis simplement ce que j'ai vu.
Que tu vas balancer, vas-y.
Ouais, j'ai vu un mec.
Ouais.
Nous, on passait en première partie de son spectacle.
Oui.
J'ai vu un mec qui a fait le spectacle dos au public.
Non.
Et qui a passé sa soirée à engueuler ses musiciens, dont Slim Pézin, donc des pointures.
Oui.
Et les mecs, il fallait manger, alors ils fermaient leur gueule, quoi. Et ça, moi, des gens qui
mais
insultent.
Toi, tu faisais la première partie et
j'étais tout petit, moi, à ce moment-là. C'était l'époque de. Eh ben, je n'aurais pas le temps de prendre ta guitare, chante avec moi.
Oui.
J'étais au début.
Et le mec, il a pourri toute son équipe, je me rappelle.
Il a passé son temps à engueuler ses musiciens. Après, on m'a dit qu'il le faisait souvent. Moi, quand on ne respecte pas les musiciens.
Non, mais il y avait un irrespect du public, si. Se met dos au public alors que les filles devaient être en transe de l'autre côté.
Bah ouais, mais ils ont vu ses fesses et...
Ah, c'est peut-être qu'il les intéressait aussi, en fait.
Ouais, peut-être c'est là que ça marche.
Et il t'a jamais parlé, vous avez jamais échangé avec Claude François?
Non, il m'a présenté une fois dans une de ses émissions de télé. Mais bon, c'est pas ma tasse de thé, j'aime pas cette espèce de conception du métier. Quand je dis je suis pas chanteur, je sais de quoi je parle, je veux pas faire partie de cette catégorie-là du métier. C'est pas mon truc, c'est pas mon taf. Et jusque-là, ça fait 60 ans que je le fais à ma manière, j'ai pas eu l'impression
de me planter. Mais ça a été un succès quand même phénoménal, ça a été une vague de tarés, Claude François. On peut pas... je comprends ton respect pour les musiciens, puisque sans les musiciens, on n'est rien. Sans les équipes techniques, moi, sans Blaise, sans Quentin, je suis rien ici.
Vous pouvez protester, les enfants.
Non, mais c'est même pas une question de protestation. C'est-à-dire que tu peux pas m'empêcher de penser que Claude François était quand même... Une déferlante dans les années 70-80, quand même.
Ouais.
T'as l'air amer, quand même, sur Claude François.
Ah, tu plaisantes?
Ouais, non.
Tu me sens amer?
Oui, complètement.
Ah non!
Amer, les flots!
Non, c'est pas parce qu'on est critique à l'égard de quelque chose qu'on est amer.
D'accord.
Excuse-moi, les mots ont une valeur. Je suis pas amer, je m'en fous éperdument.
D'accord.
Une raison déjà de ne pas être amer, c'est que je suis vivant.
C'est vrai, aimons-nous vivants. mais évidemment, où avais-je la tête? Il y a, dans les années 70-80, il y a des gens avec qui tu aimes parler, échanger, collaborer.
Bien sûr, mais je fais partie d'une génération. Maxime Le Forestier, c'était. On a une carrière avec des guillemets autour.
Bien sûr.
Qui a des carrières assez semblables.
Parallèle, ouais.
Ouais, parallèle. On jouait à peu près dans le même genre de cours.
Ouais, il y a la forme et le fond obligatoirement. Il y a beaucoup de fond dans Maxime Le Forestier. C'est moins festif que toi, quand même.
Tu fais pas une troupe pour plomber le public.
Bien sûr.
Tu fais une plombe. Mais même maintenant, il me viendrait même pas à l'idée de faire un spectacle pour que les mecs ressortent avec un mal de tête en disant putain, qu'est-ce que je me suis fait chier.
Ouais.
Et il m'a foutu le cafard. Ouais. Non, on est là pour distraire, au sens vrai du terme. On est là pour... Je termine le spectacle avec Chante, je le commence avec Chante, ouais. Et je le termine avec Chante. C'est chante la vie comme si tu devais mourir demain, ouais. Mais c'est tout.
Moi j'aime bien le binôme avec Sondin, je trouve que c'est super mignon parce que on se retrouve tous dans la vie de couple et de tous les jours. Elle a voulu que je fasse ça, j'ai essayé, regardez mon déhanché, bon elle a voulu chanter, bon alors on y va ensemble, et puis bon, elle a voulu que je sorte les poubelles, alors bon, j'ai sorti les poubelles.
Je l'ai fait tout à l'heure,
mais
d'ailleurs.
Évidemment, bien sûr. Alors, dans un instant, nous allons prendre un auditeur pour savoir s'il connaît bien son Michel Fugain. C'est dans un très court instant. C'est le téléphone le plus facile à retenir. 06 60 495 864.
C'est vachement facile à retenir.
Eh ben voilà, c'est l'auditeur qui va appeler dans un instant pour jouer avec la vie de Michel Fugain, qui est notre invité sur la route du week-end. Et oui, chers auditeurs, y compris sur nostalgie.fr, on se tutoie. Tu sais quoi, j'adore ce moment de fin de semaine, quand voilà, on a terminé une semaine de dingue avec les amis qu'on retrouve au micro de Nostalgie. C'est bel et bien Michel Fugain, le vrai.
Le vrai, en chair et en os.
Voilà, en chair et en os. J'adore l'idée. Bah ouais, j'ai 83 ans, tout va bien, il balance. Et l'essentiel, c'est que nous soyons...
Attends, bouge pas. Je peux te dire aussi plein de trucs sur Michel Sardou. Alors Michel Sardou, c'est mon pote.
Ouais.
Bon.
Alors parle de Michel Sardou, après on parlera de Michel Jonas.
Non, je parlerai pas
de Michel Thor.
Je parlerai pas de Michel.
Mais de Michel Sardou, c'est quand même un homme extraordinaire. Tu peux l'appeler, s'il te plaît, lui dire que je rêve de le recevoir, s'il te plaît. Ça me ferait.
Ah, ça, tu te démerdes alors parce
merci
que.
Merci beaucoup de ton aide. Tu vois, ça, c'est un ami. Tu es un vrai ami.
On n'intervient pas.
Si.
Il n'y a pas d'intervention.
Non. Ok, d'accord. Je te remercie infiniment. Je vois que je peux compter sur toi. Michel Fugain est notre invité sur la route du week-end et je prends un plaisir de dingue, de dingue, de dingue. Alors, on va savoir si un auditeur, une auditrice, je crois que c'est une auditrice parce que quand je dis allô, bonjour, en fait, l'idée, c'est que je pose des questions et que l'auditeur et l'auditrice y répondent. Tu t'imagines?
Ah!
Voilà le concept de mon émission. C'est bien ou pas?
Bah oui. Et vous tutoyez?
Bah attends, ça dépend.
Ah,
Allô, bonjour, bonsoir Stéphane.
Bonjour.
Eh ben, comment allez-vous?
Ben, ça va très bien, et vous?
Eh ben, écoutez, je vous remercie infiniment. Je suis face à Michel Fugain, le vrai.
Hein, bonjour Stéphane.
Voilà,
bonjour.
Je tiens à préciser qu'il dit, est-ce qu'on se tutoie ou pas? Voilà, c'est la question.
Ben, on peut, hein.
Eh ben, écoutez, on peut se tutoyer, alors avec un grand plaisir. Alors, deux, trois questions. Vous appelez d'où? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? On va avoir votre pédigré total.
Total, ça va être très long, mais alors j'appelle de la région parisienne. Je suis pas très loin de Crécy-la-Chapelle, Coulommiers.
D'accord, Crécy-la-Chapelle, très très bien. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie?
Je suis responsable d'un pôle social dans un cabinet comptable.
Félicitations. Alors, on va savoir Merci. Si vous connaissez bien. Il a l'air totalement...
J'essaie de la resituer dans
le pôle social.
Là, à Coulommiers.
Crécy-la-Chapelle.
Crécy-la-Chapelle, je vois à peu près comment c'est foutu. Et
c'est dans la Brie.
Et là, il y a des comptables.
Voilà.
Il n'y a pas que là, mais il y en a aussi ici. Ouais.
Voilà, c'est important. Alors, on va savoir si vous connaissez bien votre Michel, si tu connais bien Tiffaine, ton Michel. C'est la minute obligatoire et nécessaire. 60 secondes, vulgairement appelées par ma voix favorite. Tu connais bien ton Michel. Il faudra inviter tous les Michel, comme ça marchera, tu vois.
On était une méga chier. Hein.
J'avais oublié ce terme de méga chier aussi. C'est comme tout à l'heure avec le Christ, vraiment. J'ai des images de toi maintenant. Ça devient un truc de fou. Méga chier, ça vient d'où ça?
De méga et de chier.
Merci beaucoup. On va en faire une chanson. En plus, avec les rimes, ça peut être des rimes très très riches. Je te remercie beaucoup. Absolument. Alors, sur méga chier, est-ce que vous êtes prête? Enfin, est-ce que tu es prête? Tiffaine, pendant 60 secondes, c'est parti. Avant de devenir chanteur, Michel voulait être cinéaste ou dentiste?
Cinéaste.
You, oui. De quel grand réalisateur, Michel, a été l'assistant, Jean-Luc Godard ou Yves Robert?
Yves Robert.
You, oui. Où rencontre-t-il Michel Sardou, au Connemara ou en cours d'art dramatique?
En cours d'art dramatique.
Oui. Comment s'appelle le premier succès de Michel? Je n'aurai pas le temps ou je prends mon temps?
Je n'aurai pas le temps.
Comment s'appelle le groupe créé par Michel en 71? Le Big Bazar ou le Gros Bordel?
Le Big Bazar.
Le groupe était connu pour son style pipi ou hippie?
Hippie.
Dans sa chanson de 72, de quoi vit l'oiseau? D'eau et de graines ou d'amour et d'eau fraîche?
D'amour et d'eau fraîche.
Comment s'appelle la comédie musicale qu'il a sortie en 74? Mozart, l'opéra rock ou Un jour la fête?
Un jour la fête.
Comment s'appelle la chanson de Michel qui est aussi connue comme un chant engagé, le chiffon rouge ou le bonnet rouge?
Le chiffon rouge.
Mesdames et messieurs, que des bonnes réponses, c'est extraordinaire.
C'est un sans faute. Alors Tiffaine.
Là, Tiffaine, ça rigole plus à Crécy-la-Chapelle dans le 77. Toute la Brie est en émoi. Et moi, je vais vous offrir La vie, l'amour, etc. Ce nouvel album. Alors, il est en vinyle. Alors, moi, je trouve ça hyper chic. Est-ce que vous avez une platine vinyle ou pas?
Bah, pas encore, mais mon mari va aller en chercher une.
Non. Moi, voilà. Je vais vous me permettre. Le mari va aller en chercher. Comment s'appelle votre mari?
Éric.
D'accord, bah alors Marie-Éric va aller en acheter une. Et je vais me permettre de vous offrir deux places pour aller voir Monsieur Michel Fugain, il me regarde bizarrement, où vous voulez et quand vous voulez. Vous verrez, il y a bien évidemment avec la production qui s'appelle Quentin, il va vous rappeler. Et vous choisirez avec un grand plaisir. J'ai eu la joie, le plaisir de partager ce spectacle, ce moment d'émotion. Je n'ai pas arrêté de chanter. Il y avait Nicole Sonneville à côté qui me disait, mais comment tu fais pour avoir toutes les paroles? Et je lui disais, je joue tous les soirs à N'oubliez pas les paroles. En fait, ça doit être un petit peu ça. Michel Fugain, je reprends effectivement votre bio au tableau. Alors, elle avait raison. Tu ne devais pas devenir dentiste, mais plutôt cinéaste. Tu avais ces velléités-là.
Ouais, j'ai quitté Grenoble pour aller faire du cinéma. Oui, absolument. J'ai trouvé très vite parce que le toubib, pote de mon père, chez qui j'habitais, soignait des cinéastes. Moi, tel que vous me voyez, j'ai tout fait, quoi. J'ai bouffé avec Nicolas Ray, moi. J'ai mangé avec Nicolas Ray, qui arrivait des 55 jours de Pékin. Et je me suis retrouvé devant un grand Américain comme ça.
Pour les auditeurs qui n'ont pas la référence de Nicolas Ray...
Nicolas Ray, c'est le réalisateur de 55 jours de Pékin, entre autres. Voilà. De La fureur de vivre, entre autres.
Voilà. Non, mais c'est important pour les auditeurs. Ouais. Et donc, comment tu switches avec tes envies de cinéaste, là, d'un seul coup? Ça te fait rêver?
En fait, je travaille très vite dans le cinéma, comme assistant, quoi. Ouais. D'assistant d'un mec qui s'appelait Guy Blanc.
Ouais.
J'espère qu'il s'appelle encore, puisque je n'ai pas de nouvelles.
Ouais.
Guy était premier assistant de Yves Robert.
D'accord.
C'est-à-dire, il y a un moment où Yves Robert se met à tourner.
C'est l'époque de la guerre des boutons, tout ça, non?
Non, c'est Les Copains.
D'accord.
Prépare un film, donc Guy part. Et pour la petite histoire, je ne peux pas être second. Parce que...
Second assistant réalisateur. Ouais,
parce que Xavier Gélin, qui est le beau-fils de Yves...
Ouais. La famille de Daniel Gélin.
Le fils de Daniel Gélin.
Oui, bien sûr.
Sauf que Zazie, puisque c'était notre Zazie, qui est devenu un ami extraordinaire, Zazie a cuté son bac. Il a raté son bac.
Ouais, il était dans le métro, en fait, avec Raymond Queneau, il a raté son bac parce qu'il était en retard.
Ouais, il a raté son bac.
Ouais.
Et donc, il devait travailler pour repasser.
Ouais.
Et moi, ça m'a laissé la place. Et je suis devenu second de Yves Robert.
De Yves Robert. Alors, Yves Robert, pour les auditeurs, je trouve ça assez fantastique. C'est La guerre des boutons, c'est le grand blond avec les chaussures noires, c'est un éléphant, ça trompe énormément, c'est le retour du grand blond. Et puis, en parlant de retour de grand blond, toi, tu te fais pote avec le grand blond Michel Sardou. Comment se passe la rencontre avec Michel Sardou? Parce que c'est
en
la
fait,
question...
En fait, dans le cinéma, je m'ennuie.
Ouais.
Je m'ennuie pourquoi? Je suis à Paris depuis quelques mois, et je n'ai pas de potes.
Tu es monté de Grenoble, là.
Je monte de Grenoble, où je suis, véritablement, j'ai des potes, j'ai une bande. Oui. Je suis un mec de bande, moi.
Oui.
Hein. Et j'ai une bande. Et là, à Paris, j'ai pas de bande. J'ai une meuf, mais c'est pas une bande.
Ça dépend dans quel sens, ouais. Ouais, bien sûr. Et alors, donc, t'avais une soif de bande.
Et je me dis, où est-ce que je vais trouver une bande? Comment je peux me faire une bande, bordel? Comment je peux rentrer dans une bande? Et je me dis... Mais bon sang, mais c'est bien sûr un cours d'art dramatique.
Oui.
Parce que les mecs qui sont là...
Soif de bande.
Mais non, mais c'est pas ça, ils sont pas trop cons, ils travaillent sur des textes et tout, c'est intéressant. Et c'est une mine de gonzesses.
Ah oui, ça j'avais oublié ça, faire plaisir encore à Sanda, bien sûr.
C'est
la mine de gonzesses.
C'est la mine de gonzesses.
Ouais.
Et en général, comme elles rêvent de faire du cinéma ou du théâtre, elles sont pas moches.
Et puis en plus, elles rêvent de bande, quoi.
Oui, c'est autre chose.
Mais d'une vraie bande, quoi. Je veux dire, c'est ça, d'une troupe.
Ah non, c'était simplement... Mais quand j'arrive dans ce cours d'art dramatique, qui est Yves Furet, je vois passer un mec sur la scène...
C'était qui?
Et je le trouve très bon, et c'était Michel.
Mais non.
Mais ouais.
Mais c'était pas le chanteur à l'époque.
Et non, il était rien du tout, il était le fils de ses parents, quoi. Et c'est un soir où Michel, on est au Scossa, je me souviens.
C'est un bar ou bain?
C'est place du Trocadéro, là.
Oui, bah excuse-moi, je suis pas de Paris, excuse-moi, le Scossa, je connaissais pas. Et donc, Michel Sardou, alors?
Et là, un soir, il est là, on est là, il y a Patrice Lafont, Patrick Vichesse, le quatrième de la bande. Et Michel, il se lève et fait « Moi, les mecs, je voudrais passer une audition chez Barclay. » « Quoi ? Qu'est-ce que tu vas foutre chez Barclay ?»
Eddie Barclay.
Eddie Barclay, il voulait passer. « Mais qu'est-ce que tu vas faire ?» Ben, dit, je vais reprendre une chanson de Johnny. »
Oui.
Et là, il dit « Et puis j'écris des textes. » Patrice Lafont dit « Mais j'écris des textes aussi. » Patrick Vichesse, lui, il écrivait des poèmes.
C'est extraordinaire pour les auditeurs, c'est le vrai Patrice Lafont des chiffres et des lettres.
Le vrai de vrai. Oui. Et moi, j'avais une guitare et je fais « Mais on va te les faire, tes chansons. »
Oui.
Tu es complètement inconscient.
Oui.
Et le lendemain matin, on n'est plus jamais retourné chez...
Au
cours d'art dramatique. Oui. Le lendemain matin, j'ai commencé à gratter la guitare et je me suis aperçu que j'aimais faire des airs. Je grattais des accords et je chantais en même temps.
C'est génial, j'aimais faire des airs. C'est en deux mots, hein, désert. Peut-être même pas faire désert.
Tu les tires toujours un peu du désert.
Bien évidemment. Quelle est la chanson première qui sort pour Michel Sardou?
Une chanson qui s'appelait Le Madras.
Vas-y.
Portez du Madras et des cheveux longs. Ce qui ne s'entend pas là, c'est qu'un truc à 5 temps.
Oui.
Il me fait encore la gueule. Tu me fais des trucs à 5 temps. Tu vois, parce que je viens du jazz, ma culture de base musicale, c'est le jazz. Porter du Madras et des cheveux longs.
Mais après, c'est une carrière quand même fantastique qui s'ouvre. Donc le déclic.
Oui, pas tout de suite, pas avec le Madras en tout cas.
Ouais, mais le déclic se fait à partir de là quand même.
Il y a un truc qui se passe. Mon déclic à moi?
Ouais.
Ah, mon déclic à moi, il est simple. C'est que j'ai fait plein d'airs. Et quand on a eu fait le 45 tours de Michel, je devais éditer. Michel en édite deux à côté de chez Barclay, chez Marine. Et moi, aux nouvelles éditions Barclay, je rencontre une dame qui était en cloque jusqu'aux yeux, qui s'appelait Roland Bismuth. Et Roland Bismuth qui deviendra par la suite ma partenaire.
Ouais, d'accord.
On a monté une édition ensemble.
D'accord.
C'est elle qui l'a fait surtout. Et là, elle me dit, et vous avez d'autres chansons que les chansons que vous avez faites pour Michel?
Ouais.
Et commence à gratter.
Ouais.
Elle saute sur son téléphone, elle appelle Pierre Delanoë.
Aïe.
Et elle prend rendez-vous deux jours après.
Et c'est là où ça se complique.
Ah non, pas du tout. Je joue mes airs à Pierre Delanoë.
Ben oui.
Il m'en prend deux.
Ouais.
Pour Hugo Frey, qui vendait des tonnes de disques.
Mmh.
Rendez-vous six mois plus tard, rendez-vous pour ce qu'on touche de la SDRM, mmh, c'est-à-dire les droits mécaniques.
Mmh.
Je prends mon, je reçois un chèque, je fais, c'est quoi ce métier,
ouais,
où on fait de la musique après son petit déj?
On vit de notre passion, on vit tranquille.
Et on touche ça?
Ouais.
J'ai arrêté le cinéma immédiatement.
Non, c'est pas ça. C'est quand tu fais la parallèle avec ta carrière et celle de Michel Sardou, lui, il en avait marre d'être sur scène. Toi, t'en as vraiment pas marre d'être sur scène, quoi. Mais lui, il a un peu jeté l'éponge, quand même.
Bah, il est bougon. Alors, on sait pas. Peut-être qu'il va recommencer. J'en sais rien. Mais effectivement, on n'a pas l'impression qu'il ait envie de retourner. Moi, je vais canner sur scène. Chante la vie, quick.
Ouais.
Mais... ça va se passer comme ça.
Ouais, ouais. Mais je trouve que cette bonhomie, voilà, cette joie, ce partage est d'un bonheur sans nom. On va faire une petite virgule musicale. Je voudrais juste que tu me parles un petit peu de Françoise Hardy, quand même.
Ah, Françoise.
Bah oui, j'aimerais bien, parce que il y a eu quand même une collaboration. Tu connais Tiffaine, excuse-moi, tu es toujours là, pardon.
Oui, bien sûr.
Tu connais la collaboration avec Françoise Hardy ou pas, hein?
Je l'ai pas.
Tu l'as pas. Eh ben justement, j'aimerais bien que tu m'en parles, parce que je trouve.
Alors il y a eu d'abord une collaboration pour elle.
Oui.
Où elle a fait un truc tabou pour son disque. Et il y a un moment où j'ai eu envie, parce que j'avais un drame familial, j'ai eu envie d'arrêter. C'est-à-dire que j'avais plus envie d'y aller. Je voulais mourir.
Tu parles de ta fille là?
J'ai mouru avec elle, ouais. J'ai mouru pendant un moment jusqu'à ce que je rencontre la blonde qui a montré son visage tout à l'heure.
Bien évidemment, ouais.
Et j'ai écrit une lettre à mes confrères et consoeurs qui écrivaient des textes, qui étaient auteurs, compositeurs ou simplement auteurs. Et j'aurais dit, écoutez les enfants, ça fait un moment qu'on est là, on se croise sur des plateaux de télé... On n'est pas amis parce qu'on n'a jamais pris le temps, parce qu'on est dans des circuits différents. Et je vais mettre un point d'orgue à ma partition. Et je voudrais vous dire à quel point vous avez fait des belles chansons. Vous avez et je continue de le penser d'ailleurs. Et si vous avez un texte que vous n'avez pas utilisé, moi je ferai mon possible pour faire une belle mélodie dessus.
Et ça a donné quoi alors?
Ça a donné un album qui s'est appelé Bravo et Merci. Et ce Bravo et Merci, c'est pas un Bravo et Merci au public. C'est un bravo et merci aux auteurs qui m'ont donné ces textes, qui sont... J'ai eu vraisemblablement le dernier texte de Nounou, de Nougaro.
Ouais.
J'ai eu un texte de Charles
Aznavour.
Ouais. J'ai eu Gérard Manset, des mecs très inattendus. Mmh. Et c'est Françoise qui m'a envoyé le premier texte sur lequel j'ai commencé à bosser.
C'est magnifique. Merci beaucoup, Tiffaine, de cette petite
merci
apparition de Chrissy Lachapelle. Et puis, tu vas effectivement recevoir bientôt ce nouvel album de Michel Fugain. Et
merci.
Puis, nous allons t'inviter, nous, à Nostalgie, à aller voir sur les routes de France la rue du temps qui passe avec Michel Fugain. Mon invité est bel et bien ce soir, Michel Fugain. On est en VIP ce soir dans On Suit-toi. Je vous embrasse, même si je ne vous connais pas, je suis désolé. Tiffaine.
Au revoir, Tiffaine.
Au revoir.
Gros bisous.
Bonne journée à vous.
Merci.
Bonne soirée sur la route du week-end. Et puis, mon invité VIP, comme je disais, Michel Fugain.
On se tutoie jusqu'à 20h.
Et maintenant, Jean-Luc te pose des questions sans filtre sur Nostalgie.
Ah ouais, les questions sans filtre. Je t'ai vu rêver sur VIP. Il y a eu quand même beaucoup de collaborations. Fugain, oui, c'est le Big Bazar, Monsieur Fugain. La collab avec Sardou, moi, je ne l'avais pas. Et j'ai trouvé ça tellement... je trouve ça tellement mignon. Vous vous appelez de temps en temps avec Michel Sardou?
Pas du tout.
Pas du tout.
Pas du tout,
ça
non.
Ça te manque ou pas? Toi qui aimes bien les bandes, ça te manque?
Mais Michel, il n'est pas un mec de bande.
Ouais, c'est un vieux solitaire.
C'est un vieux sanglier, ouais.
C'est ça. C'est un bougon alors que toi tu es ouvert à la vie.
Mais c'est un bougon, mais en 2000 j'ai dû réaliser, bien grand mot.
Oui.
Je lui ai fait des chansons, d'accord, on a fait un album.
Oui.
Et pour ça, il y a un moment on est parti se balader. Il m'a emmené à Courchevel ou quelque chose comme ça, qui me ressemble pas des masses, mais on s'est retrouvé à déconner exactement
comme
on était à Vimberge.
Et ça a sorti quoi comme album? Je n'ai pas la référence. Des
ça s'appelle Français. Il y a un album qui s'appelait Français.
Ouais.
J'étais pas malade du titre, mais
ouais.
Français.
Et il y avait quoi à l'intérieur de cet album que nous pouvons connaître ici à Nostalgie? Je veux pas te piéger. Hein,
non.
Mais apparemment, non, pas hyper marqué.
Non, c'est pas le meilleur album de Michel. C'est arrivé un moment où il avait plus beaucoup envie.
D'accord. Déjà.
Ouais, ça a été plusieurs fois, oui. Puis après, il reprend, c'est un personnage formidable. Mais ce que j'aime chez Michel, c'est que c'est un fils de saltimbanque.
C'est exactement ça. Jackie Sardou.
C'est un fils de saltimbanque.
Fernand Sardou, son papa, c'est ça?
C'est Fernand Sardou.
Ouais, hein, c'est ça. Alors, en parlant des bougons, il y a Sardou et puis il y a Eddie Mitchell qui continue sur la route.
Un gros bougon aussi.
Ah, non, mais tu côtoies des bougons quand même. Ça se passe comment avec Eddie Mitchell? Comment vous rencontrez? Comment vous échangez?
Je crois que la première fois que je l'ai vu, c'était dans un truc qui s'appelait le président Roscoe ou quelque chose comme ça.
Ouais.
Et c'est lui qui fait alors, Fugain. Et j'étais au tout début, quoi. Roscoe, c'est vraiment le tout début.
Oui.
Et puis on se voit pas. Moi, tout ce que je sais de la vie d'Eddie Mitchell, je l'ai lu. Mais
il vient de sortir un album qui sonne quand même fort fort bien et puis qui a un grand succès. Hein, on l'entend un peu partout.
Hein. Très bien.
Non, mais ça veut dire qu'il a encore la niaque. Il a pas obligatoirement la niaque d'aller sur scène et de faire des tournées parce qu'il en a ras le bol. Il veut jamais faire deux fois la même chose.
Oui, c'est ça. La plupart de ces brontosaures, on est des brontosaures, d'accord.
Mm-hmm.
La plupart, ils ont pas envie de tourner. Et moi, j'aime les gens. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'aime les gens, j'aime les voir.
Mais toi, tu vas au devant des gens. Eux sont plus casaniers. Ils aiment bien être tranquilles chez eux, avoir leurs petits repères. Alors que toi, sans arrêt, tu y vas, quoi.
Bah ouais, mais c'est vachement bien. Ouais.
Non, mais quand on voit toutes tes tournées au mois d'avril, moi, je suis bouche bée. Hein. Je suis vraiment bouche bée. La France, la Suisse, la Belgique, je trouve ça fantastique. On continue alors un peu moins bougon. J'aimerais bien que tu m'expliques la rencontre avec Johnny Clegg.
Rencontre avec Johnny Clegg, moi, j'ai pas rencontré.
Apparemment, le chanteur a participé à Juin dans la rue.
Pas Johnny Clegg.
Bah alors voilà. Alors, voilà. Bah, c'est pour Quentin. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec Johnny Clegg, alors? Il s'est passé quelque chose ou pas?
Je l'ai regardé à la télévision, hein.
Quentin. Il y a eu un concert au Havre et il a repris des choses de toi, c'est ce que me dit Quentin.
Ah,
parce que là, on est en train
ça m'étonnerait bien.
On est en train de perdre un emploi, là.
Non, c'est pas Johnny Clegg. Je suis bien emmerdé parce que
merci, Quentin.
Par qui je peux le remplacer, j'en sais rien.
Tu sais que tu vas repartir en Colombie très vite, Quentin. Tu as perdu ton emploi, mais tout va bien, Quentin. Ne t'inquiète pas, tout va. Une question.
Ouais, mais bon, là je vois passer sur le Havre, comme ça, comme si c'était un spectacle normal. Il y avait 800 personnes en scène.
Alors, je vais un petit peu plus loin. Il paraît que tu as chanté avec un certain Jean-Jacques Goldman. Est-ce que ça te parle, ce duo avec Jean-Jacques Goldman? J'adore quand tu me regardes comme ça et que tu réfléchis dans ta tête, que tu te manges la lèvre inférieure en disant de quoi il parle.
Il y a un truc qui m'a échappé.
Ouais.
Pourquoi j'aurais chanté avec Jean-Jacques Goldman? J'en sais rien.
Il est deux fois viré, deux fois t'as l'allée et tu n'as plus...
Mais c'est peut-être
Tu n'as plus que l'aller simple en Colombie.
Non, c'est peut-être...
Il pleure, Quentin, tu sais.
C'est peut-être dans les Enfoirés, un truc des Enfoirés.
Ah oui, alors ça, c'est possible.
Ouais, donc c'est moi, ouais. Oui, je sais qu'il aimait bien Je n'aurai pas le temps, et on avait chanté Je n'aurai pas le temps.
D'accord. Une question, c'est un petit peu délicat. Tu disais que, on est dans les questions un peu sans filtre, tu as pensé à tout arrêter, évidemment, à la suite de ta fille, et que d'un seul coup, il y a eu une belle étoile qui est arrivée. Comment tu as la force d'y retourner quand tu vis ça dans ta vie, puisque tu es mort, tu l'as dit,
ouais.
À la disparition de ta fille? Comment tu as la force d'y retourner?
J'ai avec moi un soleil qui est Sanda, elle est toujours soleil. Et c'est elle qui me motive. Mais avant de retourner, j'ai fait des trucs différents. J'étais à la maison, plus personne voulait de moi. Ils pensaient que j'étais tout seul colo. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'avait préparé le terrain pour dire ça. J'ai mis en musique Edmond Rostand avec Chantecler, par exemple.
Ouais.
J'ai fait jusqu'au moment où on tombe sur des productions, c'est-à-dire j'ai besoin que quelqu'un me produise du spectacle. Et j'ai fait, ça a été probant un peu, puis moins probant, puis une catastrophe parce que je suis tombé sur un escroc qui m'a vraiment laminé. Jusqu'au jour où je tombe sur les deux Belges, la production qui s'appelle les deux Belges Productions.
Ouais.
Et depuis, je suis plus qu'un homme heureux, c'est un artiste heureux.
T'as retrouvé cette insouciance et cette.
C'est exactement, mais ça, avec Sanda, c'est pareil. Je lui dis, je vais retrouver ce que j'étais avant que je me mette en ménage. Et j'ai retrouvé, elle m'a donné la possibilité de le faire. Mais c'est un amour immodéré que j'ai pour ma femme. Donc,
ouais.
Ouais.
Et elle tombe, parce que tu le dis sur scène, elle tombe juste à un instant totalement imprévu, improbable. C'est une main tendue, c'est l'étoile du berger qui arrive.
C'est ma sirène.
Mais qui arrive quelques jours, quelques semaines, quelques mois après, c'est ça ?
Elle arrive, on vient de mettre les cendres de Laurette sous un olivier. Et je suis en Corse. Et là, il y a un mec qui me dit. Il y a une fille qui a Loria qui passe. Elle est bien, hein. Elle est bien. Et je suis allé à Loria. J'entends cette fille chanter.
Expliquons aux auditeurs ce qu'est Loria.
Loria, c'est un restaurant.
En Corse,
à Île-Rousse.
D'accord,
qui n'existe plus, mais qui existait à ce moment-là. J'écoute cette fille blonde.
Qui n'a rien d'une Corse.
Elle est quand même roumaine un peu, hein,
oui.
Et là, on commence à parler. Et on s'est jamais arrêté de parler pendant 3 ans. Juste, ça nous a amené dans une trattoria où on a continué de parler, mais en buvant du Valpolicella. Et en sortant, je l'ai raccompagné. Et dans la voiture, au moment d'arriver, on s'est embrassé fougueusement.
Et puis on s'est plus quitté. Mais ça a été une renaissance, hein, de toute manière, pour toi. Je suis sûr de ça.
Totalement.
Ouais.
Totalement. Je dois. Cette dernière partie de ma vie, je la dois à Sanda. Dont j'ai dit au départ, et je le dis encore, mais je suis un peu loin de l'image, mais c'est ma sirène. J'avais coulé, j'ai touché le fond. Parce qu'on me disait, il faut toucher le fond. Ça, j'ai pas tapé très fort. Ce qui fait que j'étais entre deux eaux et il y a une sirène qui est arrivée, qui m'a attrapé par le col.
Tu étais à marée basse et elle t'a mis à marée haute.
Elle m'a monté, elle m'a fait prendre ma première goulée d'air. Et je peux pas l'oublier. Mais d'ailleurs, je lui dis, c'est toi qui me fermes les yeux, mon amour.
Tu te vois chanter donc jusqu'au bout, voilà. Là, 83 ans, tranquillement, quand je te vois frétiller sur scène, je vois tous les gens, quand je vois le bonheur. Tu sais, c'est très difficile d'être rassembleur à aujourd'hui. Et quand je vois le bonheur, quand j'ai vécu le bonheur, moi, comme je l'ai vécu il y a 2 semaines à Bobino, j'ai trouvé une espèce de féerie, c'est-à-dire ce côté rassembleur des gens qui se regardaient avec les étoiles dans les yeux.
Est-ce que c'est rassembleur ou est-ce que c'est simplement parce que j'ai bien fait mon taf ?
Mais non, c'est pas un boulot que t'as fait.
Attends, bouge pas. J'ai bien fait mon boulot. Mon boulot, je suis un préposé, moi. Dans la meute, je suis quoi ? Je suis un préposé à l'imaginaire. Ah, je suis pas le seul. Tous les artistes sont des préposés à l'imaginaire du peuple en question. On ne fait que balancer des images, des trucs. Ça s'appelle un film, ça s'appelle un roman, ça s'appelle des chansons. Et les gens les prennent ou les prennent pas. Quand ils les prennent pas, on sait aussi, hein, que on n'a pas touché. C'est pas... Mais quand ils prennent, ils font leur. On est des décorateurs de leur vie. Et ils décorent avec des chansons, avec des films.
Tu ne m'empêcheras pas, alors je t'ai laissé parler, de penser que tu es un être rassembleur sur toutes les générations. Et qui peut dire ça aujourd'hui ? C'est-à-dire que nous, dans la voiture, avec papa et avec maman, on chantait, évidemment, c'est un beau roman, c'est une belle histoire. Ils se sont croisés sur l'autoroute des vacances. Nous, avec nos enfants, c'est-à-dire que ça marche sur toutes les générations. Alors tu m'as coupé, et je te recoupe, de dire que qui est l'artiste aujourd'hui que tout le monde peut chanter sans aucun problème, à part Michel Fugain. Il y en a deux, trois, mais maximum. Tu ne m'empêcheras pas de dire qu'aujourd'hui, chacun a son écran, chacun a son réseau social, chacun s'enferme dans sa bulle, et toi, tu nous ouvres et tu nous rassembles tous ensemble. Quand je te reçois à la télé, quand je te reçois à la radio, tout le monde connaît Michel Fugain. Tu fais des karaokés géants pendant tous les étés. Tu ne m'empêcheras pas de penser ça.
Oui, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Mais moi, j'ai bien travaillé, quoi. Je ne me suis pas planté.
Mais ce que je veux te dire, ce n'est pas un travail pour moi. C'est-à-dire que tu as mis ton bide sur la table à chaque fois.
Ouais, oui, mais c'est une vie, merde. Ça fait ça pendant 60 ans.
Ouais.
C'est une vie, c'est des choix, c'est une façon de faire, c'est une façon de concevoir le métier. Mmh. Quand je fais le Big Bazar, c'est pour ne pas faire le métier tel qu'on me le proposait.
Mmh.
C'est toujours des choix qu'on fait. Et puis, il y a un moment où, parce que... Oui, et ça je revendique, je suis un mélodiste. Mmh. Je suis un bon mélodiste. Mmh. Je fais des mélodies. J'ai gagné mon statut de musicien parce que les musiciens m'ont donné ce statut. Mmh. Ils m'ont permis. Ils ont reconnu que je pouvais être considéré. Quand j'ai commencé, je savais pas ce que c'était.
Mmh.
C'est pas parce que je grattais trois accords sur une guitare que ça faisait de moi un musicien. Mais les musiciens m'ont donné ce statut parce que quand ils écoutent une mélodie, ils écoutent les harmonies, ils écoutent tout. Et ils disent, putain, il est bon le gars.
Il est bon le gars, mais il y a un paradoxe quand même, parce que d'après ce que j'ai entendu, tu collabores plus avec la nouvelle génération, donc le phénomène de la transmission, tu l'as dans tes chansons.
Comment je collabore plus avec la nouvelle génération?
Pour l'heure, je vois plus trop de choses que tu fais avec la nouvelle génération. Tu penses quoi de cette nouvelle génération? T'as envie d'être avec eux, de leur proposer des choses?
Écoute, c'est marrant parce que hier, il y avait, après, aux signatures, il y a un jeune mec qui fait « Je voudrais faire un truc sur la transmission. »
Ouais. Ouais.
Et puis, bien sûr, les gars, mais pour transmettre, il faut qu'il y ait un récepteur.
Mais toi, tu peux être cette personne-là, non ?
Je peux être le transmetteur.
Oui.
Mais il faut qu'il y ait quelqu'un au bout.
Oui.
Tu vois, alors, il y a beaucoup de jeunes qui n'ont pas envie qu'on leur transmette. Il y a plein de gens qui ont artistes, ou postulants artistes, qui n'ont pas envie de se retrouver devant leurs propres limites, car ça n'est jamais doux. La transmission, c'est tu te retrouves devant un cas de figure. Le mec à qui tu transmets peut très bien se retrouver dans la position de « Ah merde, je suis en train de me gourer de chemin, c'est pas ça. Je vais peut-être faire un bon agriculteur ou je vais peut-être faire un bon vendeur. »
Non mais quand tous les jeunes qui sont à The Voice quand même, tu en penses quoi?
Ça m'intéresse.
Alors pourquoi ça t'intéresse pas?
Parce que c'est des chanteurs.
Oui mais c'est une question de transmission aussi.
Non, c'est des chanteurs, c'est pas mon métier, c'est des chanteurs.
Ouais.
Chanteurs, ils ont besoin de chansons.
Oui.
D'accord?
Ouais.
Moi ce qui m'intéresse c'est les gens qui font des chansons.
Ouais.
Parce que les chansons, ça correspond à des peuples. Ça correspond à un peuple. Et quand tu as choisi de faire de la chanson pop ou populaire, tu parles au nom d'un peuple. C'est le peuple qui fait la chanson, sienne ou pas.
Ça correspond à un instant T de la société, là où elle en est.
Oui, mais il y a des grandes lignes. Hein.
Ouais.
Il y a des trucs. Il n'y a que le paquet cadeau qui change. Il n'y a que le papier qui est autour du cadeau.
Ouais.
Dans la boîte, qui est entouré par le papier cadeau, qui lui, c'est la mode, dans la boîte, c'est toujours la même chose. C'est toujours la même planète et c'est toujours la même humanité. Qui, elle, se transforme.
Donc tu décorelles le fond.
Pour qu'une humanité se transforme, il faut du temps.
Tu décorelles le fond et la forme.
Ah mais
le fond c'est toujours
la forme, tu peux tomber dans cette espèce de piège qui vient de ce que tu veux tellement être dans au goût du jour que tu t'approches de la mode. Quand la mode est réductrice, faut surtout pas y aller. Il faut continuer de faire ce qu'on fait et d'ailleurs, je le vois sans arrêt. Les gens disent ah, enfin, des chansons qui chantent, des chansons qui racontent des trucs et ils s'y retrouvent. Et je continuerai. Après, le fond, bah oui, il faut qu'il y ait du fond parce que tu peux pas passer 2 heures devant des gens en disant rien, 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 je vous chante rien.
Rien n'a changé, tout a continué. Les poppies. Michel Fugain ce soir sur la route du week-end. Avant de laisser parler les auditeurs pour terminer cette heure magique, je le dis bien magique, sur cette nostalgie qui nous prend fort au cœur. Je voudrais juste avoir une petite pensée. Quand je dis une petite pensée, c'est même une très très grande pensée. Pour celle qui n'a pas fait partie du Big Bazar, Mimi Mathy.
Elle n'a jamais fait partie du Big, non ?
Parce que tout le monde l'a cru, tout le monde le croit encore aujourd'hui. Voilà, je pense à Mimi, parce qu'elle fait toujours partie de cette troupe des enfoirés qu'on a vu il n'y a pas longtemps. Et c'est quand même un personnage fantastique. C'est un personnage qui s'est toujours battu. Et toi, qui prône le phénomène d'être toujours possible et toujours positif. Voilà, j'ai une pensée pour Mimi. Comment s'est faite la rencontre, alors ? C'était à Nice, non ? Ou c'était où ?
À Lyon.
À Lyon, d'accord.
À Lyon.
Ah oui,
la première fois, c'est
ouais.
Lyon.
Ouais.
Au Parc de la Tête d'Or, on était installés.
Ouais.
Et j'ai vu arriver Mimi, qui était encore... qui faisait ses études.
Oui.
Et elle me dit, je veux faire partie du Big Bazar. Ben j'ai dit, écoute, qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Elle me dit, j'ai dit, écoute, pour l'instant, on n'embauche pas, alors tu vas continuer tes études,
oui.
Tu vas faire, et puis après, on se revoit. Puis là-dessus, le Big s'arrête, il y a un moment où je monte une école, un atelier école à Nice.
On en a parlé tout à l'heure.
Au studio de la Victorine.
Oui.
Et là, je vois arriver Mimi avec papa et maman. Et là, d'un seul coup, je me trouve avec Mimi, elle est parfaitement justifiée.
Oui.
Et puis, ça a duré... deux, trois ans, ouais.
Ouais.
Comme ça. Et Mimi a été, ouais, mais il a fallu se bagarrer avec Mimi parce que elle avait tendance à se servir de son handicap. C'est strictement interdit. C'est interdit. Pour se faire des amis, pour exister, se servir de son handicap. Et non, 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 Mimi, t'es une grande comme tout le monde. C'est ton talent qu'on veut, c'est pas ta taille. J'ai dû remonter les bretelles une ou deux fois. Et puis Mimi, elle avait plus besoin de moi. Elle a fait sa vie. Elle est intelligente. Elle est entêtée. Et elle a fait quelque chose qui est strictement rarissime, quoi. C'est-à-dire puisque les gens sont toujours interpellés par le handicap.
Bien sûr.
Elle s'en est foutue complètement et elle a trouvé les solutions pour arriver à Joséphine. Mais avant Joséphine, il y avait des trucs. Hein.
Évidemment.
Et
il y a eu le petit théâtre de boulevard, il y a eu plein de choses.
Bien sûr. C'est très rare ce qu'elle a fait. C'est très exemplaire. Mimi est exemplaire.
On t'aime, Mimi. Voilà, c'était juste cette petite parenthèse.
Ah ben ça, c'est clair.
Alors. Ouais, c'était très très clair. On va terminer en laissant la parole à nos auditeurs qui vont te poser les dernières questions sur Nostalgie.
Aïe.
What's happened? What's happened? Sur le WhatsApp de Jean-Luc.
Les auditeurs laissent des petits messages. 06 60 495 864. J'aimerais que tu me fasses une chanson sur ce numéro de téléphone.
Oui.
06 60 495 864.
Tu me laisses un peu de temps?
Attends, non, vas-y, vas-y. Je n'aurai pas le temps de faire une chanson sur ce numéro de téléphone. La première personne nous appelle de Marseille.
What's happened sur le WhatsApp de Jean-Luc.
Bonjour à toute l'équipe et à Monsieur Michel Fugain.
Salut.
Michel, j'ai une petite question pour vous.
Oui.
Je me présente, je m'appelle Greg, je viens de Marseille, d'origine corse, et j'aimerais savoir comment s'est passée ta rencontre avec la Corse, et si tu avais un petit message pour les Corses.
Déjà, je vais leur dire, j'arrive demain.
Ouais. C'est sympa comme ça.
Je rentre à la maison demain.
Oui.
Les messages que j'ai pour les Corses, c'est moi, j'ai choisi. Puisque j'aime bien cette expression, j'ai choisi la communauté de destin. Je vis là-bas, je fais partie du peuple corse, je te signale. Je sens à ta voix que tu es pas très vieux et que je suis allé en Corse pour la première fois en 69. Je n'en suis jamais vraiment reparti.
La question de Greg, c'était comment s'est passée cette rencontre avec Corse ?
En fait, la rencontre avec la Corse, il y a des étapes.
Ouais.
La rencontre avec la Corse, elle s'est passée à Paris.
Ouais.
Avec un mec qui s'appelait Fortuné Lebras.
Déjà Fortuné ?
Ouais, Fortuné.
Ouais.
Fortuna.
Eh ben oui, Fortuna. Comment ?
Et Fortuné m'a dit simplement, tu connais la Corse ? T'es ouais. déjà allé en Corse ? J'étais pas allé. Et il m'a dit, bon, l'été prochain, tu viens. D'ailleurs, il m'a fait venir un tout petit peu avant pour faire une soirée particulière dans une boîte qui n'existe plus non plus.
Il y a des soirées particulières en Corse qui restent en Corse.
Et
c'est très
sympathique. Je me suis retrouvé l'été là-bas. J'ai adoré ce pays. Donc, pendant la première partie, je suis l'ami de Fortuné.
Oui.
Donc, je suis l'ami de Fortuné.
Donc là, les portes
c'est pas remis. J'ai beau être Michel Fugain, ils s'en foutent éperdument.
Totalement.
Ouais, totalement.
Ouais.
Personne n'est plus important qu'un Corse en Corse.
Mais évidemment.
Et j'étais l'ami de Fortuné. puis après, quelques années après, puisqu'il y a le Big Bazar et tout ça et machin, quelques années après, je redescends, puis dans une soirée, je rencontre un autre qui s'appelle Piero Mariani.
Ben voilà.
Et qui est facteur des stars, star des facteurs.
Ouais.
Et après, je deviens aussi l'ami de Piero. C'est l'ami de Piero.
C'est l'ami de Mariani.
C'est allé d'ami en ami, et jusqu'au jour où les mecs, ils m'ont dit, oh Miguet! Et j'étais devenu Miguet, et c'est comme ça que les Corses me connaissent. C'est comme ça que je vis en Balagne, avec maintenant mon peuple. J'ai toujours de la terre de Grenoble à mes souliers, c'est certain, parce qu'on en garde toujours. Mais je suis Corse, je défends la Corse. Je défends la Corse comme certains Corses ne la défendent pas.
J'embrasse tous mes amis Corses.
Ah, et moi donc.
Et on termine de Marseille, on passe à Lyon, je crois, avec la toute dernière question de la soirée.
Sur Lyon, il n'y a pas de dossier. Sur le WhatsApp
de Jean-Luc. Je me présente, je m'appelle Erlavo, je viens de Lyon et de Montpellier.
Ouais.
Et j'avais deux petites questions. Mmh. La première, c'est, on vous a rarement vu en duo. Est-ce qu'on pourrait savoir pourquoi? Et quel serait votre duo de rêve?
Je les ai fait, les duos. Les femmes avec qui j'ai fait des duos, et les seules avec qui j'ai envie de faire,
ouais,
c'était Morane,
oui,
d'une part.
Quelle belle personne.
Et Véronique Sanson, d'autre part.
Oui.
On a fait des duos, on a même enregistré ensemble. Il y a une espèce de tradition dans la télévision française, s'ils veulent absolument faire des duos avec des chanteuses. Et il faut savoir, mais ça, si vous êtes pas musicien, vous pouvez pas l'imaginer, c'est que un garçon et une fille n'ont pas la même tessiture. Et que,
tu parles vocal. Hein.
Ouais, il y a une carte des cas. C'est-à-dire que c'est toujours au détriment de l'un ou de l'autre.
Oui.
Si je veux faire imagine que je sois méchant et je veux faire un duo avec une fille qu'on me dit tu vas faire un, ok, mais je garde ma tonalité.
Ou alors voilà.
Voilà. Et l'autre, elle va chanter comme ça. Parce que elle sera pas dans sa tessiture.
Oui.
Et si je suis gentil, je lui dis, on va passer dans ta tonalité à toi.
Oui.
Et moi, je rame.
Oui.
Donc, c'est très pénible.
Oui.
Faites-moi chanter avec des mecs.
Qui est très gentil. Mimi.
Et faites-moi chanter avec des mecs et ça ira très bien. Si vous, à chaque fois qu'on chante avec les filles, ou alors il va y en avoir un là pour une émission sur les carpentiers, et c'est la belle histoire, et on la change de tonalité, et voilà, puis on s'amuse autrement.
Chante la vie, chante comme si tu devais mourir demain.
Oui, mais il n'y a pas urgence.
Oui, il n'y a pas... Comme dirait Georges Clooney, il n'y a pas urgent. Cette chanson, elle marche encore en 2025, on va se quitter là-dessus. Tu ressens toujours la même émotion, tu commences ton spectacle avec ça, tu finis ton spectacle avec ça. C'est un éternel message d'espoir, Michel Fugain, non?
Oui, mais bien sûr que c'est un message d'espoir, c'est un message de... Je dis mon identité, c'est-à-dire que oui, je te dirai toujours « chante la vie ». Je le dirais à des mecs qui font des chansons, chante la vie telle qu'elle est, chante la vie comme elle n'est pas, mais comme elle pourrait être, tu fais ce que tu veux. Mais c'est ça, on est, c'est là qu'on se situe.
Ouais.
J'aime aussi que le spectacle ait une suite, ça soit logique. Alors, bon, non, là j'ai pris la chronologie dans le spectacle.
Il y a une construction.
Il y a une construction, ça dit, ça parle de quoi? Ça parle pas de moi, ça parle de nous.
Oui.
En fait, c'est ça qui m'intéresse dans les chansons populaires.
Mm-hmm.
C'est quand, au bout du compte, ça parle de nous, ça parle de nos émotions, à nous tous. C'est ça qui m'intéresse. Mon nombril, je m'en fous, moi.
À la sortie du spectacle, je te dis, la voix est intacte. Il y a beaucoup de chanteurs. On en a reçu quand même pas mal depuis le début de l'année. Il y en a beaucoup qui n'aiment pas les vieux chanteurs parce que la voix s'étiole. Je te pose la question, comment tu fais? Tu me dis, je n'arrête pas de chanter du matin au soir, du soir au matin.
Ouais, j'arrête pas de chanter.
Non, mais la voix, elle est intacte. Voilà, tu vas parcourir la France, la Belgique, la Suisse, je le répète. Mais quoi qu'il en soit, je trouve que ta voix, elle est belle, elle est pure. Et puis je trouve qu'elle n'a pas changé. Alors on a tous pris un peu avec le temps de grave, de bas médium, de ce que tu veux.
Ouais.
Mais je trouve que toi, elle est restée intacte. 83 ans, tu le dis, t'as pas peur. Mais la voix est là, les gens chantent avec toi.
Ouais, mais j'ai appris à chanter. Hein. Je chante mieux maintenant qu'avant. Hein.
Vraiment?
Ah oui, oui, bien sûr.
Il y en a qui ont peur de la perdre, cette voix. Il y en a qui disent, non...
C'est-à-dire que les cordes vocales, c'est deux muscles, d'accord?
Ouais.
Donc, ils trinquent de la même manière...
La muscleurie, c'est qu'un seul muscle. Hein. Nana Mouskouri, elle en a qu'une. Hein.
C'est vrai?
Bah ouais, il paraît. D'après ce que j'en ai parlé à la télé.
Si tu veux faire, si tu veux faire du son, il y a forcément un moment où c'est peut-être pas deux cordes. Franchement, c'est peut-être
Écoute, je me renseignerai, mais ça fait partie des questions pièges de la télé quand j'en ai posé quelques-unes questions. Mais bref, toi, elles sont intactes et c'est ce que je trouve fantastique.
Ouais, mais tu risques forcément de ce qui se passe sur tous les muscles quand tu vieillis, c'est-à-dire la fonte musculaire. Pareil, si tes cordes vocales fondent parce que tu les utilises pas, parce que tu les utilises pas au lieu d'avoir un son lisse, ça fait ça, elle ballotte.
C'est comme le gras du bye-bye quand tu dis au revoir sous le bras.
Absolument, c'est la même chose.
D'accord, ça y est, j'ai l'image. Ouais. Donc il faut sans arrêt chanter sous la douche.
Il faut parler, ne pas avoir peur de parler et d'émettre, parce que d'abord c'est la vie, et puis parce que effectivement si tu ne le fais pas, le mec qui reste dans son coin, il y a un moment où ses cordes, elles disent ok, bref. C'est le moment où on arrête.
Okay. Sanda, tu peux venir derrière le micro, s'il te plaît, parce que là, je trouve ça fantastique. On va faire quelque chose avant de se quitter. Elle arrive tranquillement sur sa petite béquille. bonsoir, Sanda, ça va?
C'est là qu'elle me laisse, d'ailleurs, Jean-Luc. Sur la béquille.
Ouais. Vous êtes... Oui, c'est élégant, monsieur. Je vous remercie. Alors là, c'est quand même fantastique. Je prends de la...
Mais il n'arrête pas.
Moi, je trouve ça quand même très, très, très sympathique. Vous pouvez me faire juste... Voilà, regardez comme ils sont beaux, tous les deux. Vous pouvez juste essayer de me faire un petit chante, la vie chante, comme si tu veux mourir demain. Juste, allez-y comme ça. Vous inquiétez pas, je vous rassure, il n'y a personne qui écoute.
Mais non, on va lui faire la rue du temps qui passe. Puisque...
Tu veux pas qu'on allez, fasse la rue 3, du temps qui passe
4, allez, dans la rue du temps qui passe, il y a l'école et le lycée. Et sur le trottoir d'en face, le banc des premiers baisers. Des vieux qui font la grimace. Ouh, y a même un bout de plage caché sous les pavés. Rue du temps qui passe, y a Darshan qui a 2000 ans passé. Et sur la place de l'église abandonnée, y a le grand sablier.
Merci beaucoup, Michel Fugain et Sanda. Le temps est passé comme ça. Calmez-vous, s'il vous plaît, je vous en prie, attention. Le temps est passé très, très vite ce soir. On va se dire au revoir. Et c'est juste un au revoir. Et puis, on va continuer à chanter.
Lycée.
Et on va chanter comme si...
Merci Jean-Luc, en tout cas.
Ça a été ?
Je m'ai régalé.
Ah, que tu t'es régalé.
Je m'ai régalé.
On va chanter comme si tout s'arrêtait demain.
Jamais.
Jamais ? Merci Michel. On va continuer à se tutoyer longtemps.
Je t'embrasse.
Ouais, moi aussi. Je t'aime très fort, Michel.
Je t'aime très 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 fort. Tu passes à la maison un jour ?
Avec plaisir.
Mais t'es loin. Hein.
On se tutoie sur Nostalgie.
Avec Jean-Luc Reichmann.
Tous les vendredis soirs, 19h-20h.
Et à tout moment en podcast sur l'appli Nostalgie.